Chapitre 16. Ce qu'on peut appeler religion entre les sauvages américains, des erreurs où certains abuseurs qu'ils ont entre eux nommés Caraïbes les détiennent, et de la grande ignorance de Dieu où ils sont plongés. Combien que cette sentence de Cicéron, à savoir qu'il n'y a peuple si brutal, ni nation si barbare et sauvage qui n'ait sentiment qu'il y a quelque divinité, soit reçue et tenue d'un chacun pour une maxime indubitable, tant il y a néanmoins que, quand je considère de près nos touyupinambous de l'Amérique, je me trouve aucunement empêché touchant l'application d'icelle en leur endroit. Car en premier lieu, outre qu'ils n'ont nulle connaissance du seul et vrai Dieu, encore en sont-ils là que, nonobstant la coutume de tous les anciens païens, lesquels ont eu la pluralité des dieux, et ce sont encore les idolâtres d'aujourd'hui, même les Indiens du Pérou, terre incontinentale à leur environ 500 lieues au-deçà, lesquels sacrifient au soleil et à la lune, ils ne confessent ni n'adorent aucun dieu céleste ni terrestre, et par conséquent n'ayant aucun formulaire ni lieu député pour s'assembler, afin de faire quelque service ordinaire, ils ne prient par forme de religion, ni en public, ni en particulier, chose quelle qu'elle soit. Semblablement ignorant la création du monde, ils ne distinguent point les jours par nom, ni nom acception de l'un plus que de l'autre. Comme aussi ils ne comptent semaine, mois, ni année, mais seulement en nombre et retiennent le temps par les lunes. Quant à l'écriture, soit sainte ou profane, non seulement aussi ils ne savent que c'est, mais qui plus est, n'ayant nul caractère pour signifier quelque chose, quand du commencement que je fus en leur pays pour apprendre leur langage, j'écrivais quelques sentences, leur lisant puis après devant eux, estimant que cela fût une sorcellerie, disaient l'un à l'autre. N'est-ce pas merveille que celui qui n'eût su dire hier un mot dans notre langue, en vertu de ce papier qu'il tient et qui le fait ainsi parler, soit maintenant entendu de nous ? Qui est la même opinion que les sauvages de l'île espagnole qui y furent les premiers, car celui qui en a écrit l'histoire dit aussi, les Indiens connaissant que les Espagnols, sans se voir ni parler l'un à l'autre, mais seulement en envoyant des lettres de lieu en lieu, s'entendaient de cette façon, croyaient ou qu'ils avaient l'esprit de prophétie ou que les missives parlaient. De manière, dit-il, que les sauvages, craignant d'être découverts et surpris en faute, furent, par ce moyen, si bien retenu dans le devoir, qu'il n'osait plus mentir ni dérober les Espagnols. Par quoi je dis que qui voudrait ici amplifier cette matière, il se présente un beau sujet, tant pour louer et exalter l'art d'écriture, que pour montrer combien les nations qui habitent ces trois parties du monde, Europe, Asie et Afrique, ont de quoi louer Dieu par-dessus les sauvages de cette quatrième partie dite Amérique, car au lieu que, ne se peuvent rien communiquer sinon verbalement, nous au contraire avons cet avantage que sans bouger d'un lieu, par le moyen de l'écriture et des lettres que nous envoyons, nous pouvons déclarer nos secrets à ceux qu'il nous plaît, et fussent-ils éloignés jusqu'au bout du monde. Ainsi, outre les sciences que nous apprenons par les livres, desquels les sauvages sont semblablement du tout destitués, encore cette invention d'écrire que nous avons, dont ils sont aussi entièrement privés, doit être mise au rang des dons singuliers que les hommes, de part de ça, ont reçus de Dieu. Pour donc retourner à nos touyupinambous, quand en devisant avec eux et que cela venait à propos, nous leur disions que nous croyons en un seul et souverain Dieu, créateur du monde, lequel, comme il a fait le ciel et la terre avec toutes les choses qui y sont contenues, gouverne et dispose aussi du tout comme il lui plaît. Eux, dis-je, nous voyant réciter cet article, en se regardant l'un l'autre, usant de cette interjection d'ébahissement « t'es » qui leur est coutumière, devenaient tout étonnés. Et parce qu'aussi, comme je dirais plus au long, quand ils entendent le tonnerre qu'ils nomment « Toupan », ils sont grandement effrayés, si nous accommodant de leur rudesse, prenions de là particulièrement occasion de leur dire que c'était le Dieu dont nous leur parlions, lequel, pour montrer sa grandeur et puissance, faisait ainsi trembler ciel et terre, leur résolution et réponse à cela était que, puisqu'il les épouvantait de telle façon, qu'il ne valait donc rien. Voilà, chose déplorable, où en sont ces pauvres gens. Comment donc, dira maintenant quelqu'un, se peut-il faire que, comme bêtes brutes, ces Américains vivent sans aucune religion ? Certes, comme j'ai déjà dit, peu s'en faut, et ne pense pas qu'il y ait nation sur la terre qui en soit plus éloignée. Toutefois, afin qu'en entrant en matière, je commence de déclarer ce que j'ai connu leur rester encore de lumière au milieu des épaisses ténèbres d'ignorance où ils sont détenus, je dis en premier lieu que non seulement ils croient à l'immortalité des âmes, mais aussi ils tiennent fermement qu'après la mort des corps, celle de ceux qui ont vertueusement vécu, c'est-à-dire, selon eux, qui se sont bien vengés et ont beaucoup mangé de leurs ennemis, s'en vont derrière les hautes montagnes où elles dansent dans de beaux jardins avec celles de leurs grands-pères. Et au contraire, que celle des efféminés et gens de néant qui n'ont tenu compte de défendre la patrie vont avec Aignan, ainsi nomment-ils le diable en leur langage, avec lequel, disent-ils, elles sont incessamment tourmentées. Sur quoi faut noter que ces pauvres gens, durant leur vie, sont aussi tellement affligés de ce malin esprit, lequel autrement ils nomment Kaagere, que comme j'ai vu plusieurs fois, même ainsi qu'ils parlaient à nous, se sentant tourmentés et criant tout soudain comme enragés, ils disaient « Hélas, défendez-nous des niants qui nous bat !» voire disaient qu'ils le voyaient, visiblement, tantôt en guise de bête ou d'oiseau ou d'autres formes étranges. Et parce qu'ils s'émerveillaient bien fort de voir que nous n'en étions point assaillis. Quand nous leur disions que telle exemption venait du Dieu duquel nous leur parlions si souvent, lequel, étant sans comparaison beaucoup plus fort qu'Aignan, gardait qu'il ne nous pouvait molester ni mal faire. Il est advenu, quelquefois, que, se sentant pressés, promettaient d'y croire comme nous. Mais suivant le proverbe qui dit que le danger passé, on se moque du saint, sitôt qu'ils étaient délivrés, ils ne se souvenaient plus de leurs promesses. Cependant, pour montrer que ce qu'ils endurent n'est pas jeu d'enfant, comme on dit, je leur ai souvent vu tellement appréhender cette furie infernale que quand ils se ressouviennent de ce qu'ils avaient souffert le passé, frappant des mains sur leurs cuisses, voire de détresse la sueur leur venant au front, en se complaignant à moi ou à un autre de notre compagnie, ils disaient « Maïr à toi, sap, à séqué et à nian à tout pané », c'est-à-dire « Français, mon ami ou mon parfait allié, je crains le diable ou l'esprit malin plus que toute autre chose. » Que si, au contraire, celui des nôtres auxquels ils s'adressaient leur disait « Naseke et Agnan », c'est-à-dire « Je ne le crains pas, moi », déplorant leur condition, ils répondaient « Hélas, que nous serions heureux si nous étions préservés comme vous autres. Il faudrait croire et vous assurer, comme nous faisons, en celui qui est plus fort et plus puissant que lui, répliquions-nous. Mais, comme j'ai déjà dit, combien que quelquefois, voyant le mal prochain ou déjà advenu, ils protestassent d'ainsi le faire, tout cela puis après s'évanouissait de leur cerveau. Or, avant que passer plus outre, j'ajouterai sur le propos que j'ai touché de nos Brésiliens américains, qui croyaient l'âme immortelle, que l'historien des Indes occidentales dit que non seulement les sauvages de la ville de Cusco, principale au Pérou, et ceux des environs confessent semblablement l'immortalité des âmes, mais qui plus est, nonobstant la maxime laquelle a été aussi toujours communément tenue par les théologiens, savoir que tous les philosophes, païens et autres gentils et barbares avaient ignoré et nié la résurrection de la chair, qu'ils croient encore la résurrection des corps, et voici l'exemple qu'il en allègue. Les Indiens, dit-il, voyant que les Espagnols, en ouvrant les sépulcres pour avoir l'or et les richesses qui étaient dedans, jetaient les ossements des morts çà et là, les priaient qu'afin que cela ne les empêchât de ressusciter, ils ne les écartassent pas de cette façon. Car, ajoute-t-il, parlant des sauvages de ce pays-là, Ils croient à la résurrection des corps et l'immortalité de l'âme. Il y a aussi quelque autre auteur profane, lequel, affirmant qu'au temps jadis une certaine nation païenne en était passée jusque-là de croire cet article, dit en cette façon, « Après César vainquit Ariovistus et les Germains, lesquels étaient grands hommes, outre mesure et hardis d'eux-mêmes, car ils assaillaient fort audacieusement et ne craignaient point la mort, espérant qu'ils ressusciteraient. » Ce que j'ai bien voulu expressément narrer en cet endroit, afin que chacun entende que si les plus endiablés athéistes dont la terre est maintenant couverte par de ça ont cela de commun avec les touyoupinambous de se vouloir faire accroire, voire d'une façon encore plus étrange et bestiale qu'eux, qu'il n'y a point de Dieu, que pour le moins en premier lieu ils leur apprennent qu'il y a des diables pour tourmenter, même en ce monde, ceux qui nient Dieu et sa puissance. Que s'ils répliquent là-dessus ce qu'aucun d'eux ont voulu maintenir, que n'y ayant autre diable que les mauvaises affections des hommes, c'est une folle opinion que ces sauvages ont des choses qui ne sont point, je réponds que si on considère ce que j'ai dit, et qui est très vrai, à savoir que les Américains sont extrêmement, actuellement et visiblement tourmentés des malins esprits, qu'il sera aisé à juger combien mal à propos cela est attribué aux affections humaines. Car quelque violente qu'elle puisse être, comment affligerait-elle les hommes de cette façon? Je laisse à parler de l'expérience qu'on voit par-deçà de ces choses, comme aussi, n'était que je jetterais des perles devant les pourceaux que je rembarre à présent, je pourrais alléguer ce qui est dit en l'Évangile de tant de démoniaques qui ont été guéris par le Fils de Dieu. Secondement, parce que ces athées, niant tout principe, sont du tout indignés qu'on leur allègue ce que les Écritures saintes disent si magnifiquement de l'immortalité des âmes. Je leur présupposerai encore nos pauvres Brésiliens, lesquels en leur aveuglement leur enseigneront qu'il y a non seulement en l'homme un esprit qui ne meurt point avec le corps, mais aussi qu'étant séparé d'celui, il est sujet à félicité ou infélicité perpétuelle. Et pour le troisième, touchant la résurrection de la chair, d'autant aussi que ces chiens se font accroire quand le corps est mort qu'il n'en relèvera jamais, je leur oppose à cela les Indiens du Pérou, lesquels, au milieu de leur fausse religion, voire n'ayant presque autre connaissance que le sentiment de nature, en démentant ces exécrables, se lèveront en jugement contre eux. Mais parce que, comme j'ai dit, qu'étant pire que les diables même, lesquels, comme dit saint Jacques, croient qu'il y a un Dieu et en tremblent, je leur fais encore trop d'honneur de leur bailler ces barbares pour docteurs. Sans plus parler pour le présent de tels abominables, je les renvoie tout droit en enfer, où ils sentiront les fruits de leurs monstrueuses erreurs. Ainsi, pour retourner à mon principal sujet, qui est de poursuivre ce qu'on peut appeler religion entre les sauvages de l'Amérique, je dis en premier lieu, si on examine de près ce que j'en ai touché, à savoir qu'au lieu qu'ils désireraient bien de demeurer en repos, ils sont néanmoins contraints, quand ils entendent le tonnerre, de trembler sous une puissance à laquelle ils ne peuvent résister, qu'on pourra recueillir de là que non seulement la sentence de Cicéron que j'ai alléguée du commencement, contenant qu'il n'y a peuple qui n'ait sentiment qu'il y a quelque divinité et vérité en eux, mais qu'aussi cette crainte qu'ils ont de celui qu'ils ne veulent point connaître les rendra du tout inexcusables. Et de fait, quand il est dit par l'apôtre que nonobstant que Dieu dans les temps jadis ait laissé tous les gentils cheminer en leur voie, que cependant en bienfaisant à tous et en envoyant la pluie du ciel et les saisons fertiles, il ne s'est jamais laissé sans témoignage, cela montre assez, quand les hommes ne connaissent pas leur Créateur, que cela procède de leur malice. Comme aussi, pour les convaincre davantage, il est dit ailleurs que celui qui est invisible en Dieu se voit par la création du monde. Partant, quoique nos Américains ne le confessent de bouche, Tant il y a néanmoins qu'étant convaincus en eux-mêmes qu'il y a quelque divinité, je conclus que, comme ils ne seront excusés, aussi ne pourront-ils prétendre ignorance. Mais autre ce que j'ai dit touchant l'immortalité de l'âme qu'ils croient, le tonnerre dont ils sont épouvantés et les diables et esprits malins qui les frappent et tourmentent, qui sont trois points qu'il faut premièrement noter, je montrerai encore en quatrième lieu, nonobstant les obscures ténèbres où ils sont plongés, comme cette semence de religion, si toutefois ce qu'ils font mérite ce titre, bourgeonne et ne peut être éteinte en eux. Pour donc entrer plus avant en matière, il faut savoir qu'ils ont entre eux certains faux prophètes qu'ils nomment Caraïbes, lesquels allant et venant de village en village, comme les porteurs de rogatons en la papauté, leur font accroire que, communiquant avec les esprits, ils peuvent, non seulement par ce moyen donner force à qui leur plaît pour vaincre et surmonter les ennemis quand on va à la guerre, mais aussi que ce sont eux qui font croître les grosses racines et les fruits, tels que j'ai dit ailleurs que cette terre du Brésil les produit. Davantage, ainsi que j'ai entendu du truchement de Normandie qui avait longtemps demeuré en ce pays-là, nos Touyopinambous, ayant cette coutume que de 3 en 3 ou de 4 en 4 ans, ils s'assemblent en grande solennité, pour m'y être trouvé, sans y penser comme vous entendrez, voici ce que j'en puis dire à la vérité. Comme donc un autre Français nommé Jacques Rousseau et moi, avec un truchement, allions par pays, ayant couché une nuit en un village nommé Cotina. Le lendemain de grand matin que nous pensions passer outre, nous vîmes en premier lieu les sauvages des lieux proches qui arrivaient de toutes parts, avec lesquels ceux de ce village, sortant de leur maison, se joignirent et furent un continent en une grande place assemblée en nombre de 500 ou 600. Par quoi nous arrêtant pour savoir à quelle fin cette assemblée se faisait, ainsi que nous nous en revenions, nous les vîmes soudain se séparer en 3 bandes, à savoir tous les hommes en une maison à part, les femmes en une autre, et les enfants de même. Et parce que je vis 10 ou 12 de ces messieurs les Caraïbes qui s'étaient rangés avec les hommes, me doutant bien qu'ils feraient quelque chose d'extraordinaire, je priai instamment mes compagnons que nous demeurassions là pour voir ce mystère, ce qui me fut accordé. Ainsi, après que les Caraïbes, avant que de partir d'avec les femmes et enfants, leur eurent étroitement défendu de ne sortir des maisons où ils étaient, mais que de là ils écoutassent attentivement quand ils les ouïraient chanter, nous ayant aussi commandé de nous tenir clos dans le logis où étaient ces femmes, ainsi que nous déjeunions, sans savoir encore ce qu'ils voulaient faire, nous commençâmes d'ouïr en la maison où étaient les hommes, laquelle n'était pas à 30 pas de celle où nous étions, un bruit fort bas, comme vous diriez le murmure de ceux qui barbotent leurs heures. Ce qu'entendant les femmes, lesquelles étaient en nombre environ 200, toutes se levant debout, en prêtant l'oreille, se serrèrent en un monceau. Mais après que les hommes, peu à peu, eurent élevé leur voix, et que fort distinctement nous les entendîmes chanter tous ensemble et répéter souvent cette interjection d'encouragement « Hey, 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 hey !» nous fûmes tout ébahis que les femmes, de leur côté, leur répondant avec une voix tremblante, réitérant cette même interjection « Hey, 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 hey !» se prirent à crier de telle façon l'espace de plus d'un quart d'heure que nous les regardant, ne savions quelle contenance tenir. Et de fait, parce que non seulement elles hurlaient ainsi, mais qu'aussi avec cela sautant en l'air de grande violence faisaient branler leurs mamelles et écumaient par la bouche, voire aucune, comme ceux qui ont le haut mal par de ça, tombaient toutes évanouies, je ne crois pas autrement que le diable ne leur entrât dans le corps et qu'elles ne devinssent soudain enragées. De façon que nous voyant semblablement les enfants branlés et se tourmenter de même au logis où ils étaient séparés, qui était tout auprès de nous, Combien dis-je qu'il y eut déjà plus de 2 000 000 que je fréquentais les sauvages et que je fusse déjà autrement accoutumé parmi eux, tant il y a, pour n'en rien déguiser, qu'ayant eu lors quelque frayeur, ne sachant même quelle serait l'issue du jeu, j'eusse bien voulu être en autre fort. Toutefois, après que ces bruits et hurlements confus furent finis, les hommes, faisant une petite pause, les femmes et les enfants se taisant lors tout quoi, nous les entendîmes derechef chantant et faisant résonner leur voix d'un accord si merveilleux que, m'étant un peu rassuré, voyant ces doux et plus gracieux sons, il ne faut pas demander si je désirais de les voir de près. Mais parce que, quand je voulais sortir pour en approcher, non seulement les femmes me retiraient, mais aussi notre truchement disait que depuis 6 ou 7 ans qu'il était en ce pays-là, il ne s'était jamais osé trouver parmi les sauvages en telle fête, de manière, ajoutait-il, que si j'y allais, je ne ferais pas sagement, craignant de me mettre en danger. Je demeurai un peu en suspens. Néanmoins, parce que l'ayant sondé plus avant, il me semblait qu'il ne me donnait pas grande raison de son dire, joint que je m'assurais de l'amitié de certains bons vieillards qui demeuraient en ce village auquel j'avais été 4 ou 5 fois auparavant, moitié de force et moitié de gré, je me hasardai de sortir. M'approchant donc du lieu où joyait cette chanterie, comme ainsi soit que les maisons des sauvages soient fort longues et de façon ronde, comme vous diriez les treilles des jardins par-de-ça, couvertes qu'elles sont jusque contre terre, afin de mieux voir à mon plaisir, je fis avec les mains un petit pertuis en la couverture. Ainsi, faisant de là signe du doigt aux 2 Français qui me regardaient, eux, à mon exemple, s'étant enhardis et approchés sans empêchement ni difficulté, nous entrâmes tous 3 dans cette maison. Voyant donc que les sauvages, comme le truchement estimait, ne s'effarouchaient point de nous, mais au contraire, tenant leur rang et leur ordre d'une façon admirable, continuaient leur chanson, en nous retirant tout bellement en un coin, nous les contemplâmes tout notre sou. Mais suivant ce que j'ai promis ci-dessus quand j'ai parlé de leur danse en leur beuverie et caouinage, que je dirai aussi l'autre façon qu'ils ont de danser, afin de les mieux représenter, voici les morgues, gestes et contenances qu'ils tenaient. Tout près après l'un de l'autre, sans se tenir par la main ni sans se bouger d'une place, mais étant arrangés en rond, courbés sur le devant, guindant un peu le corps, remuant seulement la jambe et le pied droit, chacun ayant aussi la main dextre sur ses fesses et le bras de la main gauche pendant, chantaient et dansaient de cette façon. Et au surplus, parce qu'à cause de la multitude il y avait 3 rondeaux, y ayant au milieu d'un chacun 3 ou 4 de ces Caraïbes, richement parés de robes, bonnets et bracelets, faits de belles plumes naturelles, neuves et de diverses couleurs, tenant au reste en chacune de leurs mains un maraca, c'est-à-dire sonnette faite d'un gros fruit plus gros qu'œuf d'autruche dont j'ai parlé ailleurs, afin, disait-il, que l'esprit parla puis après dans Isselle, pour les dédier à cet usage, il les faisait sonner à tout reste. Et ne vous les saurait mieux comparer, en l'état qu'ils étaient lors, qu'aux sonneurs de campagne de ces cafards, lesquels, en abusant le pauvre monde de par-de-ça, portent de lieu en lieu les chasses de Saint-Antoine, de Saint-Bernard et autres tels instruments d'idolâtrie. Outre plus, ces Caraïbes, en s'avançant et sautant en devant, puis reculant en arrière, ne se tenaient pas toujours en une place comme faisaient les autres. Même j'observais que, prenant souvent une canne de bois longue de 4 à 5 pieds, au bout de laquelle il y avait de l'herbe de pétoune, dont j'ai fait mention autre part, sèche et allumée, en se tournant et soufflant de toutes parts la fumée d'Issel sur les autres sauvages, il leur disait: afin que vous surmontiez vos ennemis, recevez tous l'esprit de force. Et ainsi firent par plusieurs fois ces maîtres caraïbes. Or, ces cérémonies ayant ainsi duré près de 2 heures, ces 500 ou 600 hommes sauvages ne cessant toujours de danser et chanter, il y eut une telle mélodie qu'attendu qu'ils ne savent que c'est de musique, ceux qui ne les ont ouïs ne croiraient jamais qu'ils s'accordassent si bien. Et de fait, au lieu que du commencement de ce sabbat, étant, comme j'ai dit, en la maison des femmes, j'avais eu quelque crainte, j'eus lors, en récompense, une telle joie que non seulement voyant les accords si bien mesurés d'une telle multitude, et surtout pour la cadence et le refrain de la ballade, à chacun couplé, tous entraînant leur voix, disant « He, he, ah, ouais, he, ra, ha, ré, he, ra, he, ra, ouais », j'en demeurai tout ravi. Mais aussi toutes les fois qu'il m'en ressouvient, le cœur m'en tressaillant, il me semble que je les ai encore aux oreilles. Quand ils voulurent finir, frappant du pied droit contre terre plus fort qu'auparavant, après que chacun eut craché devant soi, tous, unanimement d'une voix rauque, prononcèrent 2 ou 3 fois « Hey, va, va, va !» et ainsi cessèrent. Et parce que, n'entendant pas encore parfaitement tout leur langage, ils avaient dit plusieurs choses que je n'avais pu comprendre, ayant prié le truchement qu'il me les déclara, il me dit en premier lieu qu'ils avaient fort insisté à regretter leur grand-père décédé, lesquels étaient si vaillants. Toutefois qu'enfin, ils s'étaient consolés en ce qu'après leur mort, ils s'assuraient de les aller trouver derrière les hautes montagnes où ils danseraient et se réjouiraient avec eux. Semblablement qu'à toute outrance, ils avaient menacé les Outakas, nations de sauvages leurs ennemis, lesquels, comme j'ai dit ailleurs, sont si vaillants qu'ils ne les ont jamais pu dompter, d'être bientôt pris et mangés par eux, ainsi que leur avaient promis leurs Caraïbes. Au surplus, qu'ils avaient entremêlé et fait mention en leur chanson que les eaux s'étant une fois tellement débordées qu'elles couvrirent toute la terre, tous les hommes du monde, excepté leurs grands-pères qui se sauvèrent sur les plus hauts arbres de leur pays, furent noyés. Lequel dernier point, qui est ce qu'ils tiennent entre eux plus approchant de l'Écriture sainte, je leur ai d'autres fois depuis oui réitéré. Et de fait, étant vraisemblable que de père en fils, ils aient entendu quelque chose du déluge universel qui est du temps de Noé, suivant la coutume des hommes qui ont toujours corrompu et tourné la vérité en mensonge, joint comme il a été vu ci-dessus, qu'étant privés de toutes sortes d'écritures, il leur est malaisé de retenir les choses en leur pureté, ils ont ajouté cette fable, comme les poètes, que leurs grands-pères se sauvèrent sur les arbres. Pour retourner à nos Caraïbes, ils furent non seulement ce jour-là bien reçus de tous les autres sauvages qui les traitèrent magnifiquement des meilleures viandes qu'ils purent trouver, sans selon leur coutume oublier de les faire boire et câouiner d'autant, mais aussi mes 2 compagnons françaises et moi qui, comme j'ai dit, nous étions inopinément trouvés en cette confrérie des bacchanales, à cause de cela, fîmes bonne chère avec nos moussakas, c'est-à-dire bons pères de famille qui donnent à manger aux passants. Et au surplus de tout ce que dessus, après que ces jours solennels, lesquels, comme j'ai dit, toutes les singeries que vous avez entendues se font de 3 en 3 ou de 4 en 4 ans entre Ntouyoupinambou, sont passés, et même quelquefois auparavant, les Caraïbes, allant particulièrement de village en village, font accoutrer des plus belles plumasseries qui se puissent trouver, en chacune famille, 3 ou 4, ou selon qu'ils s'avisent plus ou moins, de ces hochets ou grosses sonnettes qu'ils nomment maracas, lesquels, ainsi parés, fichant le plus grand bout de bâton qui est à travers dans terre et les arrangeant tout le long et au milieu des maisons, ils commandent puis après qu'on leur baille à boire et à manger. De façon que ces affronteurs, faisant à croire aux autres pauvres idiots que ces fruits et espèces de courges ainsi creusées, parées et dédiées, mangent et boivent la nuit, chaque chef d'hôtel, ajoutant foi à cela, ne faut point de mettre auprès des siens non seulement de la farine avec de la chair et du poisson, mais aussi de leur breuvage dit caouin. Voire, les laissant ordinairement ainsi plantés en terre 15 jours ou 3 semaines, toujours servis d'eux-mêmes, ils ont après cet ensorcellement une opinion si étrange de ces maracas, lesquels ils ont presque toujours en la main, que leur attribuant quelque sainteté, ils disent que souventefois, en les sonnant, un esprit parle à eux. Tellement qu'étant ainsi embabouinés, si nous autres passant parmi leurs maisons et longues loges voyons quelques bonnes viandes présentées à ces maracas, si nous les prenions et mangeons comme nous avons souvent fait, nos Américains estimant que cela nous causerait quelque malheur, n'en étaient pas moins offensés que sont les superstitieux et successeurs des prêtres de Baal de voir prendre les offrandes qu'on porte à leurs marmousets, dès qu'elles cependant au déshonneur de Dieu, ils se nourrissent grassement et oisivement avec leurs putains et bâtards. Qui plus est, si prenant de là occasion de leur remonter leurs erreurs, nous leur disions que les Caraïbes, leur faisant à croire que les maracas mangeaient et buvaient, ne les trompaient pas seulement en cela, mais aussi que ce n'était pas eux, comme ils se vantaient faussement, qui faisaient croître leurs fruits et leurs grosses racines, mais le Dieu en qui nous croyons et que nous leur annoncions, cela, d'air chef, était autant en leur endroit que de parler par-de-ça contre le pape ou de dire à Paris que la chasse de Sainte-Geneviève ne fait pas pleuvoir. Aussi ces pipeurs de Caraïbes, ne nous haïssant pas moins que les faux prophètes de Jézabel, craignant perdre leur grand morceau, faisaient le vrai serviteur de Dieu, Élie, lequel semblablement découvrait leur abus. Commençant à se cacher de nous, ils craignaient même de venir ou de coucher dans les villages où ils savaient que nous étions. Au reste, quoique nos touyoupinambous, suivant ce que j'ai dit au commencement de ce chapitre, et nonobstant toutes les cérémonies qu'ils font, n'adorent pas fléchissement de genoux ou autres façons externes, leurs Caraïbes, ni leurs maracas, ni créatures, quelles qu'elles soient, moins les prient et invoquent. Toutefois, pour continuer de dire ce que j'ai aperçu en eux en matière de religion, j'alléguerai encore cet exemple. M'étant une autre fois trouvé avec quelques-uns de notre nation en un village nommé Ocarentin, distant de 2 lieues de Cotina dont j'ai tantôt fait mention, comme nous soupions au milieu d'une place, les sauvages du lieu s'étant assemblés pour nous contempler, et non pas pour manger, car, s'ils veulent faire honneur à un personnage, ils ne prendront pas leur repas avec lui, même les vieillards, bien fiers de nous voir en leur village, nous montrant tous les signes d'amitié qu'il leur était possible, ainsi qu'archés de nos corps, avec chacun en la main l'os du nez d'un poisson, long de 2 ou 3 pieds, fait en façon de scie, étant à l'entour de nous pour chasser les enfants, auxquels ils disaient en leur langage « Petite canaille, retirez-vous, car vous n'êtes pas digne de vous approcher de ces gens ici. » Après, dis-je, que tout ce peuple, sans nous interrompre un seul mot de nos devis, nous eût laissé souper en paix, il y eut un vieillard qui, ayant observé que nous avions prié Dieu au commencement et à la fin du repas, nous demanda « Que veut dire cette manière de faire dont vous avez tantôt usé, ayant tous par 2 fois ôté vos chapeaux et sans dire mot, excepté un qui parlait, vous êtes tenu tout quoi ? À qui s'adressait ce qu'il a dit ? Est-ce à vous qui êtes présent ou à quelque autre absent ? Sur quoi, empoignant cette occasion qu'ils nous présentaient tant à propos pour leur parler de la vraie religion, joint qu'outre que ce village d'Ocarentin est des plus grands et plus peuplés de ce pays-là, je voyais encore, ce me semblait, les sauvages mieux disposés et attentifs à nous écouter que de coutume, je priais notre truchement de m'aider à leur donner à entendre ce que je leur dirais. Après donc, que pour répondre à la question du vieillard, je lui eus dit que c'était à Dieu auquel nous avions adressé nos prières, et que quoiqu'il ne le vît pas, il nous avait néanmoins non seulement bien entendu, mais qu'aussi, il savait ce que nous pensions et avions au cœur, je commençais à leur parler de la création du monde. Et surtout, j'insistais sur ce point de leur bien faire entendre que ce que Dieu avait fait l'homme excellent par-dessus toutes les autres créatures était afin qu'il glorifiât en plus son Créateur. Ajoutant parce que nous le servions, qu'il nous préservait en traversant la mer, sur laquelle, pour les aller trouver, nous demeurions ordinairement 4 à 5 mois sans mettre pied à terre. Semblablement qu'à cette occasion, nous ne craignions point comme eux d'être tourmentés d'aignant ni en cette vie, ni en l'autre, de façon, leur disais-je, que s'ils se voulaient convertir des erreurs où leurs Caraïbes menteurs et trompeurs les détenaient, ensemble laisser leur barbarie pour ne plus manger la chair de leurs ennemis, qu'ils auraient les mêmes grâces qu'ils connaissaient par effet que nous avions. Bref, afin que leur ayant fait entendre la perdition de l'homme, nous les préparassions à recevoir Jésus-Christ, leur bâillant toujours comparaison des choses qui leur étaient connues, nous fûmes plus de 2 heures sur cette matière de la création, de quoi cependant, pour brièveté, je ne ferai ici plus long discours. Or tous, avec grande admiration, prêtant l'oreille, écoutaient attentivement, de manière qu'étant entrés en ébahissement de ce qu'ils avaient ouï, il y eut un vieillard qui, prenant la parole, dit « Certainement, vous nous avez dit merveilles et choses très bonnes que nous n'avions jamais entendues. Toutefois, dit-il, votre harangue m'a fait remémorer ce que nous avons ouï réciter beaucoup de fois à nos grands-pères, à savoir que dès longtemps et dès le nombre de temps de lune que nous n'en avons pu tenir le compte, un maïr, c'est-à-dire français ou étranger, vêtu et barbu comme aucun de vous autres, vint en ce pays, ici, lequel, pour les pensées rangées à l'obéissance de votre Dieu, leur tint le même langage que vous nous avez maintenant tenu. Mais comme nous avons aussi entendu de père en fils, ils ne voulurent pas croire. Et partant, il en vint un autre, qui, en signe de malédiction, leur bailla l'épée de quoi, depuis, nous nous sommes toujours tués l'un l'autre. Tellement qu'en étant entrés si avant en possession, si maintenant, laissant notre coutume, nous désistions, toutes les nations qui nous sont voisines se moqueraient de nous. Nous répliquâmes à cela, avec grande véhémence, que tant s'en fallait qu'ils se dussent soucier de la gaudisserie des autres, qu'au contraire, s'ils voulaient comme nous adorer et servir le seul et vrai Dieu du ciel et de la terre, que nous leur annoncions, si leurs ennemis pour cette occasion les venaient puis après attaquer, ils les surmonteraient et vaincraient tous. Somme, par l'efficace que Dieu donna alors à nos paroles, nos touyupinambous furent tellement émus que non seulement plusieurs promirent de dorénavant vivre comme nous les avions enseignés, même qu'ils ne mangeraient plus la chair humaine de leurs ennemis, mais aussi, après ce colloque, lequel, comme j'ai dit, dura fort longtemps, eux, se mettant à genoux avec nous, l'un de notre compagnie, en rendant grâce à Dieu, fit la prière à haute voix au milieu de ce peuple, laquelle en après leur fut exposée par le truchement. Cela fait, ils nous firent coucher à leur mode, dans des lits de coton pendus en l'air. Mais avant que nous fussions endormis, nous les ouïmes chanter tous ensemble que pour se venger de leurs ennemis, il en fallait plus prendre et plus manger qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Voilà l'inconstance de ce pauvre peuple, bel exemple de la nature corrompue de l'homme. Toutefois, j'ai opinion, si Villegagnon ne se fût révolté de la religion réformée et que nous fussions demeurés plus longtemps en ce pays-là, qu'on en eût attiré et gagné quelques-uns à Jésus-Christ. Or, j'ai pensé depuis à ce qu'il nous avait dit tenir de leur devancier, qu'il y avait beaucoup de centaines d'années qu'un maïr, c'est-à-dire, sans m'arrêter s'il était français ou allemand, homme de notre nation, ayant été en leur terre, leur avait annoncé le vrai Dieu, à savoir s'il serait point été l'un des apôtres. Et de fait, sans approuver les livres fabuleux, lesquels, outre ce que la parole de Dieu en dit, on a écrit de leurs voyages et pérégrinations, Nicéphore, récitant l'histoire de saint Matthieu, dit expressément qu'il a prêché l'évangile au pays des cannibales qui mangent les hommes, peuple non trop éloigné de nos Brésiliens américains. Mais me fondant beaucoup plus sur le passage de saint Paul tiré du psaume 19e, à savoir « Leur son est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde », qu'aucun bon expositeur rapporte aux apôtres, attendu, dis-je, que pour certains, ils ont été en beaucoup de pays lointains à nous inconnus, quel inconvénient y aurait-il de croire que l'un ou plusieurs aient été en la terre de ces barbares. Cela même servirait de lampe et générale exposition que quelques-uns requièrent à la sentence de Jésus-Christ, lequel a prononcé que l'Évangile serait prêché par tout le monde universel. Ce que toutefois, ne voulant point autrement affirmer pour l'égard du temps des apôtres, j'assurerai néanmoins, ainsi que je l'ai montré ci-dessus en cette histoire, que j'ai vu, et oui de nos jours, annoncer l'Évangile jusqu'aux antipodes, tellement qu'outre que l'objection qu'on faisait sur ce passage sera solue par ce moyen, encore cela fera que les sauvages seront tant moins excusables au dernier jour. Quant à l'autre propos de nos Américains touchant ce qu'ils disent, que leurs prédécesseurs n'ayant pas voulu croire celui qui les voulut enseigner en la droite voie, il en vint un autre, lequel, à cause de ce refus, les maudit et leur donna l'épée de quoi ils se tuent encore tous les jours, nous lisons en Apocalypse qu'à celui qui était assis sur le cheval roux, lequel, selon l'exposition d'aucun, signifie persécution par feu et par guerre, fut donné pouvoir d'ôter la paix de la terre, et qu'on se tua l'un l'autre, il lui fut donné une grande épée. Voilà le texte lequel, quant à la lettre, approche fort du dire et de ce que pratique notre Youpinambou. Toutefois, craignant d'en détourner le vrai sens et qu'on estime que je recherche les choses de trop loin, j'en laisserai faire l'application à d'autres. Cependant, me ressouvenant encore d'un exemple qui servira aucunement pour montrer, si on prenait peine d'enseigner ces nations des sauvages habitant en la terre du Brésil, qu'ils sont assez dociles pour être attirés à la connaissance de Dieu, je le mettrai ici en avant. Comme donc, pour aller quérir des vivres et autres choses nécessaires, je passais un jour de notre île en terre ferme, suivi que j'étais de deux de nos sauvages toupinanquins et d'un autre, de la nation nommée Weanen, qui est leur étalié, lequel avec sa femme était venu visiter ses amis et s'en retournait en son pays, ainsi qu'avec eux, je passais à travers d'une grande forêt, contemplant en nacelle tant de divers arbres, herbes et fleurs verdoyantes et odoriférantes, ensemble voyant le chant d'une infinité d'oiseaux rossignolant parmi ce bois, où l'or, le soleil donnait, me voyant, dis-je, comme convié à louer Dieu par toutes ces choses, ayant d'ailleurs le cœur gai, je me pris à chanter à haute voix le psaume 104. Sus, sus, mon âme, il te faut bien dire, etc., etc. Lequel ayant poursuivi tout au long, mes trois sauvages et la femme qui marchaient derrière moi y prirent si grand plaisir, c'est-à-dire au son, car au demeurant ils n'y entendaient rien, que quand j'eus achevé, Louéanen, tout ému de joie, avec une face riante, s'avançant, me dit « Vraiment, tu as merveilleusement bien chanté, même ton chant éclatant m'ayant fait ressouvenir de celui d'une nation qui nous est voisine et alliée, j'ai été fort joyeux de l'ouïr. Mais, me dit-il, nous entendons bien son langage, et non pas le tien, par quoi je te prie de nous dire ce de quoi il a été question en ta chanson. » Ainsi lui déclarant le mieux que je pus, car j'étais lors seul français et en devais trouver deux, comme je fis, au lieu où j'allais coucher, que j'avais non seulement en général loué mon Dieu en la beauté et gouvernement de ses créatures, mais qu'aussi, en particulier, je lui avais attribué cela, que c'était lui seul qui nourrissait tous les hommes et tous les animaux, voire faisait croître les arbres, fruits et plantes, qui était par tout le monde universel, et au surplus que cette chanson que je venais de dire ayant été dictée par l'esprit de ce Dieu magnifique duquel j'avais célébré le nom, avait été premièrement chantée il y avait plus de 10 000 lunes, car ainsi compte-t-il, par un de nos grands prophètes, lequel l'avait laissé à la postérité pour en user à même fin. Bref, comme je réitère encore ici que sans couper un propos, ils sont merveilleusement attentifs à ce qu'on leur dit, après qu'en cheminant l'espace de plus de 30 minutes, lui et les autres eurent ouï ce discours, usant de leur interjonction d'étonnement, tais, ils dirent « Oh, que vous autres maïrs, c'est-à-dire français, êtes heureux de savoir tant de secrets qui nous sont cachés à nous chétives et pauvres misérables. » Tellement que pour me congratuler, me disant « Voilà pour tout ce que tu as bien chanté », il me fit présent d'un agouti qu'il portait, c'est-à-dire un petit animal, lequel avec d'autres j'ai décrit au chapitre 10e. Afin donc de tant mieux prouver que ces nations de l'Amérique, quelque barbares et cruelles qu'elles soient envers leurs ennemis, ne sont pas si farouches qu'elles ne considèrent bien tout ce qu'on leur dit avec bonne raison, j'ai bien voulu encore faire cette digression. Et de fait, quant au naturel de l'homme, je maintiens qu'il discourt mieux que ne le font la plupart des paysans, voire d'autres de part de ça qui peuvent être fort habiles gens. Reste maintenant pour la fin que je touche, la question qu'on pourrait faire en cette matière que je traite, à savoir d'où peuvent être descendus ces sauvages. Sur quoi je dis, en premier lieu, qu'il est bien certain qu'ils sont sortis de l'un des trois fils de Noé, mais d'affirmer duquel, d'autant que cela ne se pourrait prouver par l'Écriture sainte, ni même, je crois, par les histoires profanes, il est bien malaisé. Vrai est que Moïse, faisant mention des enfants de Japhet, dit que 10 ceux furent habités les îles, mais parce que, comme tout s'expose, il est là parlé des pays de Grèce, Gaule, Italie et autres régions de par-de-ça, lesquelles, d'autant que la mer les sépare de Judée, sont appelées îles par Moïse, il n'y aurait pas grande raison de l'entendre ni de l'Amérique ni des terres continentes à Icelles. Semblablement de dire qu'il soit venu de Sem, duquel est issue la semence bénite et les Juifs, combien qui se soient aussi tellement corrompus qu'à bon droit ils ont été finalement rejetés de Dieu, tant il y a néanmoins que pour plusieurs causes qu'on pourrait alléguer, nul, comme je crois, ne l'avouera. D'autant donc que quant à ce qui concerne la béatitude et félicité éternelle, laquelle nous croyons et espérons par un seul Jésus-Christ, nonobstant les rayons et le sentiment que j'ai dit qu'ils en sont, c'est un peuple maudit et délaissé de Dieu, s'il y en a un autre sous le ciel, car pour l'égard de cette vie terrienne, j'ai déjà montré et montrerai encore qu'au lieu que la plupart par de ça, étant trop adonnés au bien de ce monde, n'y font que languir, eux au contraire, ne s'y fourrant pas si avant, y passent et vivent allègrement presque sans souci. Il semble qu'il y a plus d'apparence de conclure qu'ils soient descendus de Cham. Et voici, à mon avis, la conjecture plus vraisemblable qu'on pourrait amener. C'est que, quand Josué, selon les promesses que Dieu avait faites au patriarche, et le commandement qu'il en eut en particulier, commença d'entrer et prendre possession de la terre de Canaan, l'Écriture sainte témoignant que les peuples qui y habitaient furent tellement épouvantés que le cœur défaillit à tous, il pourrait être advenu, ce que je dis sous correction, que les majeurs et ancêtres de nos Américains, ayant été chassés par les enfants d'Israël de quelques contrées de ce pays de Canaan, s'étant mis dans des vaisseaux à la merci de la mer, auraient été jetés et seraient abordés en cette terre d'Amérique. L'Espagnol auteur de l'Histoire générale des Indes, homme bien versé aux bonnes sciences quel qu'il soit, est d'opinion que les Indiens du Pérou, terre continente à celle du Brésil, dont je parle à présent, sont descendus de Cham et ont succédé à la malédiction que Dieu lui donna. Chose, comme je viens de dire, que j'avais aussi pensé et écrite dans les mémoires que je fis de la présente histoire plus de 16 ans avant que j'eusse vu son livre. toutefois parce qu'on pourrait faire beaucoup d'objections là-dessus. N'en voulant ici décider autre chose, j'en laisserai croire à chacun ce qui lui plaira. Mais quoi que s'en soit, tenant de ma part pour tout résolu que ce sont pauvres gens issus de la race corrompue d'Adam, tant s'en faut que les ayant ainsi considérés vides et dépourvus de tout bon sentiment de Dieu, ma foi, laquelle, Dieu merci, est appuyée d'ailleurs, ait été pour cela ébranlée. Moins qu'avec les athéistes et épicuriens, j'ai de là conclu ou qu'il n'y a point de Dieu, ou bien qu'il ne se mêle point des hommes, qu'au contraire, ayant fort clairement connu en leur personne la différence qu'il y a entre ceux qui sont illuminés par le Saint-Esprit et par l'Écriture sainte, et ceux qui sont abandonnés à leur sens et laissés en leur aveuglement, j'ai été beaucoup plus confirmé en l'assurance de la vérité de Dieu.